Chers auditeurs, j'ai le plaisir de partager avec vous la présence de David Mascret, qui est un philosophe et mathématicien, auteur de bien des livres qui vont des terres rares aux biographies de grands intellectuels et artistes, mais aussi de philosophie, de mathématiques et de tant d'autres choses. Et nous aurons ensuite Pierre-Henri Rousseau, qui est un artiste d'aujourd'hui, qui vient de créer un courant qui s'appelle les artistes Frangelico, et qui organise un colloque annuel sur le thème de la vocation artistique, si on peut dire. Nous aurons enfin Christine Surgens, qui va nous parler d'un événement récent qui informe beaucoup sur le système français, qui est les informations que nous avons sur Jacques Lang et sur sa façon d'administrer l'art contemporain. Voilà, donc Christine va nous éclaircir sur ce sujet qui me paraît très important. Alors, David Mascret, vous êtes docteur en philosophie, en mathématiques, et d'ailleurs vous n'avez jamais abandonné ni l'un ni l'autre, puisque vous êtes professeur de mathématiques à Paris 5, mais vous êtes aussi dans le domaine de la philosophie à HEC et de l'histoire des sciences. À HEC.
Pour être précis, j'ai enseigné à HEC la géopolitique et l'analyse des matières, des relations internationales autour des matières premières et des questions de sécurité liées au climat. J'enseigne actuellement en école d'ingénieurs la géopolitique, l'économie et la culture générale. Paris 5, c'est une période un petit peu passée, donc pour l'heure, j'enseigne la culture générale, l'économie générale et la géopolitique.
Oui. Donc en fait, les mathématiques et la philosophie vous ont emmené dans des territoires extrêmement liés au présent et à la réflexion sur ce qui se passe, puisque au fond, vous donnez des cours sur une sorte de compréhension avec une distance de tous les phénomènes actuels importants.
C'est une volonté explicite liée à la nécessité de prendre en charge la compréhension des événements contemporains. Après ma thèse de philosophie consacrée à ce que j'ai intitulé « La science de l'infini », un essai sur la philosophie de Cantor, qui était un auteur absolument majeur pour comprendre les mathématiques du XXe siècle et l'un des plus grands penseurs du XIXe siècle, puisqu'il est né en 1845 et meurt en 1918. Il m'a semblé qu'il était nécessaire, tout en prolongeant la veine ouverte ainsi ébauchée, d'approfondir aussi, en l'actualisant, une analyse des problèmes contemporains. Et c'est dans ce cadre, par exemple, que j'ai suivi un troisième cycle d'analyse des menaces criminelles contemporaines consacrées aux questions de terrorisme, de mafia, d'argent sale et aux sectes, dans lequel intervenaient notamment Alain Bauer et Xavier Hoffer. Donc vous voyez, c'est une volonté, justement, après les événements du 11 septembre 2001, un peu de sortir de ma tour d'ivoire pour ne pas être, comme le sont hélas beaucoup d'universitaires, non pas prisonniers de leur champ, mais réduits à ne pouvoir parler qu'à 4 ou 5 personnes en France et une quinzaine dans le monde. Ce qui est un peu le problème aujourd'hui de l'université, c'est-à-dire une forme de micro-spécialisation qui fait qu'on perd justement cette dimension tout à la fois universelle de la connaissance et puis actuelle, c'est-à-dire centrée sur la compréhension des enjeux contemporains.
Oui, d'ailleurs, vous remplissez un vide parce que l'université ne s'occupait pas de ça. Et il fallait être peut-être l'école de la guerre économique de Christian Arbulot pour pouvoir traiter ces sujets de la guerre économique et également des autres formes de guerre, les guerres hybrides, les guerres culturelles, etc. Ce sont des intérêts qui ne sortent pas de l'université, mais qui, qui peu à peu sont visibles grâce à des gens qui voient qu'il faut du recul pour, et de la culture pour examiner tous ces aspects nouveaux de la guerre et de la coexistence des pays dans un monde entièrement qui est en contact entièrement.
Qu'on peut considérer aussi comme un feu et un sang.
Oui.
Oui, c'est absolument vrai. Alors la caractéristique, là aussi c'est un fait révélateur que j'ai essayé de traiter à travers deux ouvrages consacrés à l'université. L'un intitulé l'organisation de la recherche en France et l'autre le grand chantier de l'université. C'est qu'effectivement, le drame de la structure universitaire française, c'est qu'elle est restée prisonnière de champs disciplinaires plus ou moins identifiés, qui eux-mêmes d'ailleurs avaient des problèmes d'identité propre, parce qu'on ne sait plus aujourd'hui ce qu'il faut enseigner en lettres, plus vraiment de quelle manière enseigner l'histoire. Il y a des querelles à n'en plus finir à l'intérieur de chacune de ces disciplines, mais surtout, à l'intérieur même de ce qui doit être l'alma mater, l'université, il y a, en France, depuis, on peut dire, 1945 et plus encore depuis 1968, une volonté, ou en tout cas un état de fait qui conduise à exclure les champs de compréhension essentiels et croisés. Typiquement, vous n'avez pas aujourd'hui en enseignement d'économie ou de sociologie d'analyse de la monnaie. Le grand penseur de la monnaie de ce fait a dû partir, hélas, à Stanford, et qui n'a pas trouvé de chaire en France, qui est le penseur du désir mimétique.
Absolument.
C'est évidemment Girard. Typiquement, on ne peut rien comprendre aujourd'hui au problème de l'économie si on ne sait pas ce que c'est que le fonctionnement de la monnaie. Or, ce chapitre n'est quasiment jamais enseigné, en tout cas dans les premières années d'études économiques. Même chose pour la géopolitique. Toutes les grandes nations qui ont un rapport à la puissance, qui ont une volonté de continuité historique, une volonté de domination au moins de leur précaré et de leur champ géographique constitué, ont des structures qui enseignent, font de la recherche en géopolitique. En France, pendant des années, il n'y avait pas de chaire de géopolitique. Il y avait un tout petit embryon d'enseignement géopolitique à Paris 8, qui d'ailleurs est une université créée un peu au débeauté, au détour de l'aventure de Vincennes et qui s'est établie après à Saint-Denis, sous l'égide d'Yves Lacoste. Mais alors que avez des chaires entières aux États-Unis, en Russie avec le MGIMO, en Chine où on forme les meilleurs jeunes à la compréhension, à l'analyse géopolitique, en France, il n'y avait rien. Géopolitique n'était qu'une sous-discipline des sciences politiques et d'ailleurs était contaminée par elle, c'est-à-dire qu'on était dans une logique non pas d'étude des rapports de force ou des ressources permettant justement d'asseoir ces rapports de force ou des connaissances permettant de conquérir par exemple l'espace, mais dans des questions de qui est avec qui, des simples jeux d'analyse des relations diplomatiques ou des relations politiques. D'où l'incompréhension des Français de la géopolitique, en fait.
Mais c'est même un sujet interdit. Mais vous savez, la première chaire sur le soft power date de 2023 et la première chaire d'études sur les réseaux de 2023 également. Donc ça n'a pu être fait que dans le déséquilibre qu'a provoqué le Covid deux ans avant. Mais peut-être il faudra que nous consacrions une émission entière à ce fait français qui nous pénalise énormément. Mais aujourd'hui vous veniez avec un livre sous le bras dont je ne voudrais pas que vous n'ayez pas le temps d'en parler. Ce petit livre s'appelle « Fidèles et rebelles dans le siècle » et ça fait partie de toute une série de livres où vous vous intéressez aux biographies de scientifiques, d'artistes, d'intellectuels.
De grands personnages de l'histoire aujourd'hui méconnus pour un certain nombre d'entre eux.
Et alors là, vous nous parlez de Pierre Magnard.
Pierre Magnard est le co-auteur du livre, c'est lui qui est à l'instigation, à l'initiative de cet ouvrage. Co-rédigé, donc écrit à quatre mains, si vous voulez, par votre serviteur et donc Pierre Magnard, qui lui-même est un descendant indirect des personnes qui sont évoquées dans cet ouvrage.
Absolument, oui.
Mais il s'agit là, cette fois, d'une sorte de saga familiale qui s'étale sur sept siècles. Évidemment, Pierre est le principal connaisseur et interprète de ces sources lointaines. Mmh. Par contre, j'ai ajouté évidemment ma plume pour tout un ensemble de réflexions, de notes, notamment autour des deux figures finale de cette épopée des Magnards, celle de Francis Magnard qui a assumé les postes de directeur général du Figaro entre 1866 et 1894, année de sa mort, et surtout celle d'Albéric Magnard, son fils, qui est un grand compositeur de la musique française, méconnu, mort dans des conditions tout à fait héroïques et singulières, mais qui s'inscrit dans une histoire riche, complexe, que j'ai tenté, à l'aide également d'autres amis spécialistes de la musique, de décrypter.
Alors, ça nous plaît beaucoup parce que nous avons ici invité, il y a quelques années, Claire Blackmagnard,
oui.
Qui, elle, avait publié les correspondances d'Albéric Magnard. Et parce que il est alors très important de dire que pourquoi Pierre Magnard, c'est tout simplement que ça a été votre maître à la Sorbonne qui vous a ouvert les portes de l'invisible, si on peut dire, ou de l'infini.
C'est un très très grand enseignant. On peut considérer, dans le meilleur sens du terme, que c'est un maître de l'histoire de la philosophie, au sens magistériel. Il a tenu pendant 20 ans la chaire d'histoire de la philosophie et de métaphysique, disons, de l'Antiquité tardive jusqu'à la Renaissance, avec quelques empiétements sur le XVIIe siècle, notamment à la suite de la publication de sa très belle thèse sur Pascal et la clé du chiffre. Mais c'est surtout un passeur, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la grande tradition philosophique de la philosophia perennis, de la catena aurea, c'est-à-dire la chaîne sans interruption, de transmission des enseignements depuis les origines de la pensée philosophique, et il a été un maître de la leçon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il caractérise, il l'a dit parfois à quelques-uns de ses contemporains qui avaient beaucoup de mal à s'inscrire dans cette lignée, je pense notamment à Derrida, il a dit « mais commence par faire des leçons de philosophie ». Et à ce moment-là, effectivement, tu obtiendras une crédibilité incontestable, mais avoir cette humilité de se mettre à l'écoute des très grands auteurs du passé pour les rendre vivants et actuels et les rendre accessibles à la compréhension des jeunes générations, eh bien, c'est là le premier devoir de l'enseignant de philosophie, de l'universitaire. Et il a été reconnu pour tel puisqu'il a quand même été président du comité national du CNRS pour les sciences humaines.
Et vous avez fait votre thèse avec lui?
Alors, plus précisément, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sous sa direction, qui était consacré à la question de l'infini d'Aristote à Galilée.
Alors, voilà le mathématicien qui s'intéresse à ce qui n'est insaisissable par le chiffre.
Oui, mais cette question traverse toute l'histoire de la pensée, de la métaphysique. En tout cas, chez Aristote, elle est absolument fondamentale pour comprendre sa physique, sa cosmologie et sa métaphysique. Et puis bien après, évidemment, avec tous les renaissants, j'ai consacré mon mémoire de DEA aux artistes géomètres de la Renaissance, donc Albertil, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, et après Pascal et Leibniz, voilà. Ouais. Et ma thèse, par contre, a été effectuée sous une autre direction, celle de Christian Houzel, qui lui est un pur historien des mathématiques, puisque là, elle devenait très technique, mais Pierre Magnard nous a fait l'honneur d'assurer la présidence du jury.
Alors, tout ça nous fait comprendre aussi votre sympathie pour ces personnages, puisque Francis Magnard est un grand personnage, un journaliste, peut-être modèle pour nous encore aujourd'hui, mais auteur également, c'est un penseur, c'est un auteur, c'est plus qu'un journaliste.
Je pense qu'il ne faut surtout pas l'enfermer dans cette toute petite case aujourd'hui qui correspond au métier de journaliste. Et en fait, hélas, on le voit bien avec l'intelligence artificielle, est très probablement en voie d'élimination, puisque vous le savez, un certain nombre de journalistes aujourd'hui se contentent de reprendre une dépêche de l'AFP, de changer trois virgules, de rajouter deux adverbes, et ils considèrent qu'avec cela, ils ont produit un article. À l'époque de Francis Manière, c'est tout différent. Mmh. Être un journaliste, c'est d'abord avoir une plume, donc être un écrivain. C'est ensuite avoir un souci de l'objectivité, donc de recouper l'information, de saisir la logique interne des faits, et surtout de garder des principes d'impartialité absolue. Et cela, il en est le concepteur, en tout cas c'est un de ceux qui a explicité ce que pouvait être l'éthique du journalisme à une époque où, il faut bien le dire, les patrons de presse, hein, comme Émile de Girardin, ou Hippolyte de Villemessant, le cofondateur, enfin le deuxième fondateur du Figaro après la première mouture, étaient d'abord des hommes de pouvoir ou des hommes de relations publiques qui cherchaient à vendre du papier. Donc lui a vraiment posé les bases d'un journalisme extrêmement rigoureux, extrêmement objectif, extrêmement éthique. Et parallèlement, effectivement, il a produit trois ouvrages tout à fait intéressants, dont l'un a des résonances et des convergences étonnantes avec l'ouvrage d'un grand auteur qui était son cousin, Paul Bourget, dont le titre est resté célèbre, Le Disciple. Donc si vous lisez l'un des textes de Francis Manière, eh bien, vous découvrirez une analyse extrêmement fine de ce que peuvent être les échecs, les écueils d'une éducation purement positiviste, totalement amoral, qui conduit en fait à une catastrophe, puisque le directeur, l'accompagnateur spirituel de la jeune femme la conduit au suicide. C'est un peu le même thème que celui qu'évoque Paul Bourget dans Le Disciple. Donc vous voyez, on a affaire à des grandes figures qui sont très proches l'une de l'autre. Je vous rappelle que Paul Bourget, non seulement était académicien, membre de l'Académie française, mais était aussi l'un des très proches du directeur du Figaro, Joseph Calmette, puisque à tel point qu'il était présent dans le bureau le jour où la veuve Caillot est venue décharger son revolver dans sa poitrine. Il était l'un des témoins directs de cet assassinat qui est survenu en mars 1914.
Et alors nous avions décidé de parler du fils de ce personnage,
Albéric.
Albéric, qui est un compositeur français très important, mais qu'on entend rarement ou qui est un peu effacé. En tout cas, il est pour nous très intéressant parce que il a une vision de la musique qui a toujours existé, mais qu'il exprime particulièrement, qu'il développe particulièrement. Mais disons que son œuvre, elle s'est arrêtée d'une certaine façon, d'une façon tragique aussi, en 1914. Donc, et elle fait la synthèse, disons, c'est la modernité d'avant la guerre de 14.
Oui, c'est une époque de très grand renouveau, et en même temps de quête, d'abord de voies nouvelles, mais aussi d'une réappropriation de la grande tradition française, en tout cas des identités musicales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'instigation de son père, Francis, qui veillait évidemment au devenir professionnel de son fils Albéric, le jeune Albéric était programmé, entre guillemets, pour faire une carrière de juriste. Il a commencé des études de droit, il est né en 1865, il est très brillant, il a plusieurs accessites, notamment en latin, en français, à l'occasion du baccalauréat au concours général, et puis il s'engage dans la voie des études de droit. Sans doute pour devenir magistrat ou avocat au barreau de Paris. Et à 21 ans, il fait ce déplacement qui à l'époque était quand même assez rare, en tout cas pour des jeunes gens de cet âge. Il fait ce qu'on appellera plus tard le pèlerinage à Bayreuth. C'est-à-dire qu'il se rend à Bayreuth en 1886, donc à l'été 1886, où il assiste à la représentation de trois des grands opéras de la tétralogie. Alors ça changeait selon les années, en général c'est Lohengrin, Parsifal, l'anneau des Nibelungen. Parfois, ça varie un petit peu. Il voulait voir Siegfried. Mais là, d'abord, il rencontre tous les grands musiciens du temps. Il rencontre même Liszt, qui vient en quelque sorte passer l'arme à gauche, ou quelque part même rendre l'âme quasiment dans les bras de Wagner,
à Bayreuth.
Liszt, qui est un compositeur et un artiste exceptionnel de toute cette première moitié, enfin disons des années 1825 à 1880, donc au milieu du 19e siècle, mais qui avait énormément aidé, notamment dans la dernière partie de sa vie, de jeunes artistes, précisément parce qu'il avait bourse ouverte et un cœur généreux pour promouvoir les talents. Donc, si vous voulez, c'était une figure internationale. Et le fait qu'il fasse ce geste de venir rendre son dernier souffle à Bayreuth, quasiment dans les bras de Wagner, effectivement, est très fort. Et de cela, effectivement, Alberic est le témoin. Et il va être non seulement très profondément marqué, mais je peux dire bouleversé par cette nouvelle vision de la musique que propose Wagner, et en tout cas qui s'impose, qui se diffuse à partir de cette exception wagnérienne qui est le fait pour un auteur-compositeur, et j'y reviendrai, de pouvoir disposer de son théâtre pour donner ses propres opéras. Donc il le doit à Ludwig. Oui, c'est ça, à Louis II de Bavière. Donc ça aussi, c'est une exception dont ne pourront profiter par contraste, ni Ravel, ni Debussy, ni Mania. C'est vraiment la chance et la force et l'exception qu'offre Louis II à Wagner de lui mettre entre les mains un théâtre entièrement dédié à la promotion, à la diffusion de ses œuvres. Et à partir de là, effectivement, tout un ensemble d'artistes viendront très régulièrement. Les soirées, les saisons estivales de Bayreuth se déroulaient tous les deux ans ou toutes les années. Et au total, Alberic se rendra trois fois à Bayreuth en 1886, en 1888, et en 1892 et 94. Mais comme beaucoup d'autres, hein, comme Massenet, comme Ropart, et de très nombreux auteurs français, qui ne pourront pas ne pas tenir compte de cette nouveauté fondamentale.
Oui, c'est ça. Mais c'est quelque chose de nouveau qui...
Et une conception globale de la musique aussi, associant évidemment la démarche épique, la démarche poétique, théâtrale, évidemment musicale. Donc c'est toute la force de la pensée wagnérienne. Mais parallèlement, et là c'est là que la géopolitique fait son entrée dans cette histoire, les Français qui étaient restés très enfermé dans une conception relativement modeste sous le Second Empire de la musique, avec soit l'opéra bouffe d'Offenbach, soit Meyerbeer, soit Massenet, à l'exception de quelques auteurs eux-mêmes qui n'eurent aucun succès ou quasiment aucun succès de leur vivant, comme Berlioz avec son Faust ou Bizet avec Carmen. Hein. Bizet meurt trois mois après la première représentation de Carmen et c'est un flop. Berlioz est obligé de payer les instrumentistes pour pouvoir effectuer les répétitions du Faust. Et ces auteurs, de leur vivant, sont incompris parce que la place est occupée par Meyerbeer, principalement, ou par le rossinisme. Donc, on est dans une vision très, non pas superficielle, mais dans laquelle que les Allemands auront beau jeu de diffamer sous le nom de musique légère, musique agréable, musique ludique, mais pas une musique sérieuse ou une musique profonde comme celle de Beethoven. Et donc, en réaction à la défaite de 1870, qui est un véritable traumatisme pour les Français, vous avez un salon de très grands compositeurs français, au premier rang desquels Camille Saint-Saëns, qui vont créer
un courant contre.
Un courant opposé radicalement à cette prétention de l'Allemagne à l'hégémonie musicale. Ils vont le faire sous la forme d'une association qui s'appelle la Société Nationale de Musique, qui est créée en 1871, donc au lendemain de la défaite, et dans laquelle le principe essentiel, c'est de dire nous sommes ouverts à toutes les productions nouvelles et contemporaines, mais d'auteurs français. Interdiction stricte de donner en représentation quelque œuvre d'un auteur allemand. La seule exception qu'ils accepteront, assez tard, d'ailleurs, une douzaine d'années après, c'est de faire jouer une œuvre de Chausson, qui est un compositeur suisse. Donc, vous voyez, le risque est quand même pas énorme, et on est quand même très éloigné de la culture allemande. Et cette ligne sera tenue très fortement, alors que Camille Saint-Saëns, par ailleurs, reconnaît la beauté et l'intérêt d'une partie de la musique allemande, que ce soit celle héritée de Beethoven, Brahms, Schumann, ou celle ouverte par la voix proposée par Wagner. Donc, il n'est pas du tout sectaire, contrairement à ce que manifesteront un certain nombre de Français ultra-patriotes. Il faut se souvenir, par exemple, que jusqu'en 1890, Lohengrin est interdit de représentation en France. Et à Paris, c'est un scandale à chaque fois qu'on propose de donner cet opéra. Donc, finalement, l'opéra ne peut être rendu public en France ou rendu accessible au public qu'à travers des petits opéras de province, je crois comme à Nice, peut-être à Marseille, mais il faut attendre plus de 20 ans. Et de fait, Wagner avait eu la maladresse, ce qui n'avait pas arrangé les choses, au lendemain de la défaite française, d'écrire un opéra qu'il a intitulé « Capitulation ». Alors évidemment que les Français ont très mal vécu, qu'ils ont pris pour une provocation absolue. Alors lui, après, s'est justifié en disant, en fait, c'était un opéra qui montrait la vanité et l'insuffisance ou la suffisance des généraux allemands qui, justement, d'une certaine manière, à travers la proclamation du Reich allemand, ont détruit une partie de l'esprit allemand, puisque lui était du côté de Ludwig, de Louis II, qui était au contraire absolument opposé à l'unification allemande, et qui était un admirateur absolu de Versailles et de la France de Louis XIV. Donc, vous voyez, là aussi, il y a eu des malentendus, mais la presse a évidemment, dans un climat ultra-chauviniste, joué là-dessus pour marquer très fortement cette opposition. Et donc, le glissement dans cette forme d'hostilité réciproque ou de mépris réciproque des Allemands vis-à-vis des Français et de certains Français vis-à-vis de la musique allemande, il s'opère avec l'arrivée de deux compositeurs de la génération suivante, mais pour le premier, Vincent d'Indy, qui avait participé de façon très héroïque au combat de 1870, eh bien, d'Indy et César Franck, qui lui était un surdoué, un enfant prodige, mais qui était originaire de Liège, qui était belge, donc, là aussi, une sorte d'enclave entre l'Allemagne et la France, un pays créé à dessein par les Britanniques en 1830 pour servir de tampon entre la puissance allemande et la puissance française, eh bien, lui quitte Liège vers l'âge de 9 ans ou 10 ans pour arriver à Paris, et effectivement, à travers des leçons particulières, puis après sa formation au Conservatoire National, on l'appelait ainsi, le Conservatoire National de Paris, va profondément renouveler, à travers une école qu'il formera, bien tout l'enseignement et toute la vision de la musique. Et ce sont ces deux hommes qui, en quelque sorte, prennent le pouvoir au sein de la Société Nationale de Musique en 1886, si ma mémoire est bonne. Et à ce moment-là, de façon très théâtral, Camille Saint-Saëns considère que l'esprit de sa fondation a été trahi et quitte cette fondation. Donc, vous voyez,
parlons de manière
Albéric, c'est un disciple de César Franck et de Vincent d'Indy. Voilà. Donc, et c'est la génération d'après.
Il exprime sa conception de la musique. Il parle de musique pure. Il parle. Il y a une conception qu'il défend, il est très passionné là-dessus.
Oui, c'est à la fois évidemment un compositeur, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas mondain, ça c'est très important, donc il ne faut pas mettre son invisibilisation ou le fait qu'il soit peu connu sur le seul caractère tragique de sa mort le 3 septembre 1914. Évidemment, il a 49 ans, on peut imaginer qu'il aurait laissé une œuvre beaucoup plus abondante s'il n'était pas mort dans ces conditions tragiques, au commencement de la guerre, un peu comme un Charles Péguy, si vous voulez. Mais déjà, à partir du 1892, il se retire du monde, c'est-à-dire qu'il déteste les mondanités. Il n'enseignera quasiment jamais, si ce n'est 2 ou 3 ans, à la Schola Cantorum, fondée par Vincent d'Indy et un ou deux autres compositeurs. Il ne participera quasiment à aucun jury de sélection. Et donc, effectivement, il est un peu en marge. Et par contre, on sait qu'il est un relecteur et un critique extrêmement exigeant. Et donc, plusieurs compositeurs, comme Ropartz, notamment, Mauss, lui adresseront tout simplement des partitions pour les soumettre à sa lecture. Mais pour vous donner une image de son exigence, il avait la réputation d'être extrêmement dur et exigeant dans l'exécution de ses compositions. Donc, il avait un chef d'orchestre attitré qui avait vocation à entraîner en quelque sorte l'orchestre pour les répétitions avant représentation au grand public. Et il n'était quasiment jamais satisfait, il était extrêmement perfectionniste, et surtout, il ne donnait pas, avant d'être absolument sûr de lui, le morceau, la nouvelle composition en représentation, et pire que cela, avant d'être certain que l'exécution serait parfaite à ses yeux. Et même chose, pire que cela, du point de vue de la publicité, il refusait ou il décalait dans le temps la transmission à l'imprimeur des partitions qu'il venait de créer.
Et qu'il imprimait lui-même.
Et qu'il imprimait lui-même, effectivement, ou qu'il gardait sous le coude. Ce qui est le drame, effectivement, sa mort prématurée le 3 septembre 1914, c'est qu'il y a tout un ensemble de partitions qui ont été brûlées à l'occasion et de cette mort héroïque, puisqu'il est mort brûlé par les Allemands.
Après avoir tiré dessus.
Voilà, je vous raconterai le détail de cette mort héroïque ou wagnérienne, comme vous voulez. Mais il est mort à la suite, effectivement, d'une réquisition de son manoir, qui était situé dans l'Oise, à Baron, par deux régiments allemands qui venaient de descendre la Somme et qui avaient franchi la Belgique, donc qui étaient en train de se diriger vers Paris, et qui lui ont dit « Écoutez, monsieur, vous avez un très beau manoir, nous avons besoin de faire coucher 120 soldats dans cette nuit. » Il a dit « Écoutez, ici vous êtes chez moi, il en est hors de question. » Il dit « Oui, mais monsieur, ici, maintenant, c'est la guerre. » Donc, ceci est un ordre. Évidemment, ça s'est très mal passé, mais c'est pour vous montrer la force de son caractère. Et évidemment, à partir du moment où, sur divers malentendus, en tout cas, il y a eu échange de coups de feu, les Allemands sont allés chercher un général qui a tout simplement donné l'ordre de brûler l'ensemble du manoir et des dépendances. Et dans ce manoir, il y avait des partitions absolument inédites. Et on a pu les reconstituer après coup, parce que le chef d'orchestre qui avait la responsabilité d'interpréter ses œuvres et qui, pour certaines, les avait déjà données en répétition, a reconstitué a posteriori les partitions disparues. Donc c'est vous dire combien, effectivement, tout cela a été le fait d'enchaînements tragique, improbables, funestes, tragiques,
mais
miraculeux.
Très, très lié aussi à son tempérament et son absolutisme.
C'est une forme
de rigueur absolue.
Qui se retrouve dans le titre. Pierre Manière l'a très, très bien choisi de ce point de vue-là. Il est à la fois fidèle à toute une grande tradition d'honneur, de combat au service de la France, mais il est aussi rebelle, comme une partie de ses ancêtres. Et c'est un rebelle. Donc, effectivement, il refuse d'obéir à des ordres qu'il juge absurdes, de même qu'il considère qu'une partie des élites du temps, notamment, il a d'énormes différends avec les producteurs de musique qui sont au nombre de trois à l'époque, qui sont donc Lamoureux, Padeloup et Colonne, qui exercent une forme de monopole en termes de production de la musique du temps, et dont il dit tout simplement, en fait, ils ne connaissent à peu près rien à la musique.
Mais c'est eux qui décident.
Mais ce sont eux qui décident qui a le droit de faire la musique.
Aujourd'hui, on a le même problème avec le ministère de la Culture.
Enfin, sauf qu'à l'époque, ça n'était pas l'État, c'était des privés. Alors, il a des paroles extrêmement dures, je vous les décrirai plus en détail à l'occasion, mais contre certains d'entre eux. Et surtout, l'analyse qu'on peut faire rétrospectivement, justement, c'est là que c'est l'avantage d'avoir une approche géopolitique, c'est qu'on se rend compte que ce sont des personnes qui n'ont un intérêt quasiment qu'économique. Donc, ils vont évidemment produire ce qu'on appellerait à l'époque des tubes, pour que le public soit toujours satisfait et vienne en masse. Donc on joue pour la énième fois la cinquième symphonie ou la neuvième symphonie de Beethoven, tel quatuor de Brahms. Aucun risque, et surtout des extraits, uniquement des extraits, parce que vous savez bien que les pauvres auditeurs ne peuvent pas suivre une œuvre magistrale 3 heures de suite. Déjà, le problème de la concentration existe. Oui. Mais c'est une histoire ancienne, parce que déjà, en 1863, quand Wagner donne sa première représentation à Paris, Lohengrin, vous savez qu'à l'époque, on trouve une autre clé d'entrée pour comprendre la diffusion ou l'échec de la diffusion des œuvres à leur parution. L'opéra était surtout un lieu de rencontre et de représentation de la haute société parisienne. Donc les membres du Jockey Club, sous l'Empire, en 1863, sous le Second Empire, avaient l'habitude de manger grassement et de festoyer le dimanche.
Et s'endormir.
Alors certains, les plus âgés, mais ils avaient surtout l'habitude de ne venir à la représentation du dimanche, qui commençait vers 14h30, que pour le second acte, après un repas copieux. Et ils venaient essentiellement pour se rincer l'œil et voir les petites ballerines lever la jambe. Donc évidemment, lorsqu'ils ont vu le second acte de Lohengrin, qui n'était absolument pas dans un esprit léger type Offenbach, ils ont dit « qu'est-ce que c'est que ça ? Il nous faut des danseuses, il nous faut des froufrous ». Ils ont demandé à Wagner de changer sa partition. Et Wagner était fou furieux et il dit « mais qu'est-ce que c'est que ces cuistres ?» Beethoven, à son époque, avait dit des porcs qui ne viennent que pour, d'un regard lubrique, essayer de se trouver une petite ballerine qui viendront séduire à la fin de l'opéra. Ouais. Donc, à ce moment-là, Wagner a eu... évidemment, ça a été un échec, cette première série de représentations. Et donc, Wagner en a tiré une forme de mépris vis-à-vis de la haute élite française et de son goût culturel... tout à fait médiocre et en fait empli de vices.
David Mascret, je recommande ce petit livre « Fidèles et rebelles dans le siècle » de Bouvines à la Grande Guerre, 7 siècles de la saga des Magnards, aux éditions de l'Infini.
Voilà, vous pouvez vous le procurer soit en adressant un courriel à l'adresse suivante infini.edition@gmail.com. infini.edition@gmail.com, nous vous répondrons et vous transmettrons l'ouvrage pour ceux qui désireront le commander. Soit vous nous écrivez à l'adresse postale des éditions de l'Infini, les éditions de l'Infini, 61 rue du Jard, J-A-R-D, 51100, Reims. Je répète, les éditions de l'Infini, 61 rue du Jard, J-A-R-D, 51100, Reims. C'est là, en contrepartie d'un chèque donc de 35 € pour... prendre en compte les frais de port, nous vous adresserons un exemplaire de l'ouvrage, si vous le souhaitez, dédicacé.
Merci David Mascret. Nous avons maintenant le Bobino.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Pierre-Henri Rousseau, vous êtes au bout du fil, je crois, parce que vous n'êtes pas à Paris, mais dans votre atelier près de Lyon, c'est bien ça.
Alors là, je suis. Mon atelier a déménagé, donc je me suis installé maintenant en Drôme provençal.
Alors justement, nous avions envie de relater la suite de votre aventure, qui est d'avoir créer un cercle, comment on pourrait appeler ça, une rencontre annuelle, un réseau, une rencontre annuelle de jeunes artistes qui ont comme intérêt tout particulier ou vocation, chaque histoire est différente, pour la représentation de l'art sacré, qui a beaucoup souffert ces 50 dernières années et qui... n'avait pas de lieu pour se rencontrer, ni débattre, ni...
Voilà, mais je me permets de préciser, pour rassembler les artistes qui ont la foi, mais pas nécessairement qui font de l'art sacré.
Oui.
Donc il s'agit d'un rassemblement où les artistes se retrouvent sur une base commune, même s'ils font ils ont une vocation artistique très différente entre ceux qui font l'art sacré et ceux qui font un art profane. Mais ils ont personnellement cette foi commune.
Oui, alors c'est un peu aussi, on va peut-être relier cela à votre propre histoire, puisque vous avez, pour en arriver là, vous êtes un artiste vous-même, vous commencez à travailler et à consacrer toute votre vie à l'art, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Donc ça veut dire aussi que vous trouvez des commandes dans ce domaine, ce qui jusqu'à une époque récente était vraiment extrêmement rare et même impensable. Donc vous avez vécu vous-même cette aventure. Racontez-nous un peu comme le processus et la raison pour laquelle finalement vous êtes dit ce qui m'aurait aidé à l'époque où j'ai vécu tout ça, c'est de pouvoir en parler à d'autres, pouvoir échanger, à ne pas être tout seul.
Oui. Je préciserai tout de même que j'ai en quelque sorte eu la chance de ne pas souffrir, disons, psychologiquement d'être tout seul. J'en ai pâti dans le sens où j'ai dû me débrouiller par moi-même afin de me lancer dans cet art. Mais justement, j'étais un peu naïf aussi. Je suppose que ça aide aussi à ne pas trop souffrir de la solitude. Et j'ai puisé de la force, en fait, tout simplement, dans une découverte pour moi très bénéfique. C'est que Jean-Paul II avait donné un saint patron universel à tous les artistes, le bienheureux Frangelico. Et donc, je me suis mis à le prier, à me plonger dans sa vie et à y trouver des ressources. Donc, par exemple, je donne un exemple pour illustrer dans quelle mesure c'est concret. Eh bien, j'ai découvert que le bienheureux Frangelico, dominicain, en plus de sa pratique artistique, avait été économe de son monastère de nombreuses années. Et donc, dans les difficultés financières qu'on doit affronter en tant qu'artiste, eh ben, j'ai compris que, en fait, mon saint patron les avait affrontées et que il fallait que je m'y mette et que je me sentais soutenu. Donc voilà un petit peu.
Et par ailleurs, on peut dire autre chose de Frangelico, c'est que à l'époque, il est un des artistes qui fait une synthèse entre l'art du Moyen Âge et la Renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, il innove.
Tout à fait.
Il s'adapte à un nouveau monde. Et il, par exemple, il assimile la perspective. Il assimile une forme de couleur qui est liée à la lumière. Et, il assimile aussi un certain réalisme. Toutes choses qui sont du domaine de la synthèse ou du passage. Comme nous tous, on a tous des racines du passé et puis une époque où il faut s'adapter sans renoncer à ce que l'on désire et à ce que l'on est. Et donc Frangelico a vécu ça.
Il est un très bon exemple de... il illustre la capacité d'assumer un esprit de renouvellement et un enracinement, à trouver un équilibre entre les deux. Et ça, effectivement, c'est aussi quelque chose, moi, qui m'a beaucoup porté. On n'est pas obligé d'abandonner ce qu'on a reçu, tout l'enracinement, pour actualiser l'art, à proposer des choses nouvelles. Et en même temps, pour faire quelque chose, offrir un art sérieux, on n'est pas obligé de se cantonner à la copie des modèles qui ont marché.
Alors, donc, vous avez commencé à travailler beaucoup. Là aussi, c'est la solitude, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation vraiment très, très simple à trouver.
Et c'est ça, il faut chercher, et puis en fait, on ne trouve pas la formation qui nous donne tout ce qu'on recherche. Il faut,
picorer à droite, à gauche. Ouais.
Exactement. Donc effectivement, par exemple, moi, j'ai complété par un stage de fresque. Je voulais apprendre la technique, la noble technique ancestrale de la fresque a fresco, à la chaux, avec la Giornata en une journée, celle justement de tous ces peintres de la Renaissance. Et donc, je me suis mis en quête d'une personne qui pouvait me transmettre ça. Et j'ai trouvé difficilement. Et donc, j'ai trouvé une personne, mais qui m'a appris vraiment la technique, disons, artisanale, mais pas le style. Donc, vous voyez, le style, c'était autre chose. Et j'ai dû faire ma synthèse entre toutes ces diverses formations.
Et en plus, vous passez un ou deux ans au couvent.
Alors ça, c'est même initial. J'ai commencé par ça et c'est la source, je pense, de tout ce que j'ai fait ensuite et là où j'en suis maintenant. J'ai appris au monastère, ce qui est pour moi la base de mon inspiration, à savoir que tout ce que l'on peut vivre spirituellement est capable d'être exprimé dans le monde sensible.
Et mais vous l'avez quitté, ce monastère ?
Voilà, je l'ai quitté. Je l'ai quitté au bout de 3 ans de noviciat, un petit peu à regret et à cause d'une fragilité de santé que j'ai toujours d'ailleurs. Ce fait-là aussi, je pense, a concouru à ce que je suis maintenant, parce qu'il n'y a pas eu de, il y a une continuité. Et puis, en quelque sorte, j'ai obéi à la réalité. J'étais incapable, à la fin, de suivre la moitié de l'observance monastique. Et donc, bon, il fallait sortir. Et donc, dans mon discernement, j'ai pas tellement tâtonné. En fait, les choses se sont un peu imposées à moi, avec douleur. Mais vous voyez, c'est pas la même chose que d'être en errance complète.
Donc après, vous ne renoncez quand même pas à cette vocation d'artiste, à pratiquer à plein temps, parce que aujourd'hui, pour être libre, il faut presque, gagner sa vie autrement et peindre à côté, dans l'état actuel des choses.
Tout à fait. En fait, je crois que j'ai vécu grâce au monastère à une sorte de sacrifice d'Abraham. C'est-à-dire que j'avais cet élan avant de rentrer au monastère. Mais j'ai voulu y renoncer. J'ai accepté de l'offrir à Dieu. Et en fait, il me l'a rendu. Il me l'a rendu sans que je le reprenne, un peu par la force des choses. Donc à partir de là, je me suis lancé à corps perdu en ayant en quelque sorte confiance, en étant audacieux. Et puis un petit clin d'œil, c'est qu'en fait, justement, j'avais fait ma prise d'habit à la date, sans le vouloir, hein, c'est le Père Abbé qui avait décidé, à la date de la fête du Bienheureux Frangelico, le 18 février. Donc voilà, je pense que tout ça a conclu
à donner
à
du sens,
me donner un élan, pour créer cette fameuse journée Frangelico pour les artistes, pour mes frères artistes.
Alors, il faut dire que cette journée, alors ça fait penser à la journée de la fresque. Il faut faire ça en une journée parce que les choses sèchent vite. Oui. Je vois une association des deux journées. Et cette journée commence l'année dernière à Saint-Roch. Alors, comment sont venus les gens ? Parce qu'on ne les connaît pas tous ces... Alors, très souvent, ce sont des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Ils sont très jeunes.
Ils sont très jeunes.
Et donc, c'est une nouvelle génération que personne ne connaît. D'où sortent-ils ? Qu'est-ce qui leur prend de s'intéresser à ça ? Et puis, qui leur a dit qu'il y avait une journée sur ce sujet à Saint-Roch ? Comment ça s'est passé, tout ça ?
Alors, à la base, c'est venu de mon petit réseau, parce qu'en fait, j'ai mûri cette idée pendant des années, et j'ai appris à découvrir d'autres artistes, bien entendu, depuis que je me suis lancé dans cette activité. Et au bout d'un moment, des amis m'ont dit, en avant, il faut se lancer. Et donc à partir de là, j'ai naturellement contacté les artistes que je connaissais déjà et qui ont relayé l'information. Jusque-là, c'est la seule chose que je connais, parce qu'après, ça m'a échappé, à vrai dire. Après, c'est un effet boule de neige, et beaucoup de ces artistes, je ne les connais pas moi-même, finalement. En tout cas, de ces artistes qui sont arrivés à la journée Frangelico.
Et alors, la première fois, ils étaient combien ? Parce que moi, malheureusement, je n'ai pas assisté à la première fois, donc il faut que vous nous le racontiez.
Ah oui, alors la première fois a été une surprise, parce que vous doutez que, justement, si j'ai lancé ça de ma propre initiative en étant un petit peu un illustre inconnu, je ne m'attendais pas à ce que ça marche comme ça, à ce que les artistes répondent à l'appel. On était très surpris parce qu'on a eu plus de 150 personnes dès la première fois l'année dernière. Euh, et, euh, et, et je vous dis, ça nous a un peu échappé, parce qu'il y avait mon petit réseau, et même dans mon petit réseau, il y en a beaucoup qui ne sont pas venus. Voilà, je ne saurais pas... moi, je me dis, voilà, c'est Frangelico qui les a fait venir. et cette année, y avait à peu près le même nombre.
Et alors, on répète, 80% moins de 30 ans.
Oui, alors, et parmi eux, oui, c'est ça, très jeune.
Parmi eux, vous avez des professionnels. Le mot professionnel me fait horreur, mais bon, on va le prononcer, parce que ça veut dire qu'ils vivent, du moins en partie, de leur art, ou ils veulent en vivre. C'est ce qu'on peut appeler professionnel. Même s'ils n'en vivent pas, ils font la démarche de s'inscrire à la Maison des artistes, à avoir cette étiquette qui aujourd'hui est que vous êtes enregistré comme tel.
Oui, en tant qu'artiste-auteur, oui. Mmh. Oui, parce qu'il faut bien un critère un peu matériel. Je suis bien d'accord avec vous que ce terme n'est pas très beau. Mais bon, voilà, il faut quand même un critère. Oui. Parce que cette journée Frangelico a donné naissance à l'association Communion Frangelico. Mmh. Et pour y adhérer, il faudra quelques critères comme ça, en effet. Mmh. Donc oui, il y avait beaucoup de jeunes professionnels. Quelques professionnels, entre guillemets, donc quelques artistes plus établis.
Oui.
Mais sinon, beaucoup de jeunes qui...
Mais rares.
Voilà, rares.
Oui.
Il y en avait quand même un certain nombre qui vivent pleinement de leur art, très jeunes, qui ont moins de 30 ans. Ils sont au début, donc aussi, qu'est-ce qu'on attend d'un chiffre d'affaires? C'est qu'en tout cas, qu'ils suffisent. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose. Voilà, j'imagine que c'est quand même modeste pour certains. Et après, beaucoup d'autres qui vivent seulement partiellement.
Mmh.
Et voilà.
Et il y a aussi, dans ces 150 personnes qui étaient là ce jour-là, des amateurs.
Il y avait des amateurs et aussi des personnes qui travaillent dans le monde de l'art en général, des penseurs de l'art.
Mmh.
Il y avait des
observateurs
aussi,
oui.
Voilà, des personnes qui s'intéressent à l'art, donc des journalistes d'art, tout à fait, oui.
Et aux surprises qui montrent une évolution dans la pensée, dans la démarche, il y avait la personne qui est responsable des arts au Bernardin. Chose qui eût été impensable il n'y a pas très très longtemps.
Très bonne surprise pour nous, effectivement. Elle nous a honorés de sa présence en manifestant que ça l'intéressait.
C'est la moindre des choses, à mon avis, mais ça n'était pas du tout évident. Et donc, ça montre une évolution qui va dans le bon sens. Ce bon sens, c'est évidemment cette reconnaissance d'artistes qui ont quelque chose qu'on pourrait appeler une vocation, et qui ont des styles et des métiers très divers. Parce que, je dirais, la modernité, c'est ça, c'est la diversité des courants, il n'y a pas un unique style, il n'y a pas un art sacré déterminé, tout ça, c'est des choses qui n'existent plus, si on peut dire. Il n'y a pas un discours, une idéologie, il n'y a pas tout ça.
Et surtout, je me dis que notre rôle est de fédérer les artistes autour d'une foi commune, pour les encourager aussi
à évangéliser leur
art.
Et à y croire, tout simplement. À y croire, à cet art, oui.
À croire à cet art aussi, également, parce que c'est ça que ça implique, c'est que la foi doit nous transformer jusque dans notre art, normalement. Donc, c'est faire prendre conscience que notre art peut évoluer aussi à cause de notre foi, quel qu'il soit notre art, je veux dire, quelle que soit la discipline artistique. Mais ce n'est pas de notre ressort à nous, les organisateurs de l'association, de dire « Ah oui, mais vous, c'est bon, vous, c'est pas bon.
»
Vous voyez la différence entre comprendre que oui, notre art doit en fait être sanctifié par par le Christ, par notre foi. Ça, c'est une chose. Et c'en est une autre qu'il y ait des hommes qui aient la capacité de jugement que cet art est bon ou pas. Vous voyez
En tout cas, on peut, comment dire, exprimer la qualité. Mais on ne doit pas imposer un style ou une idéologie sur la question. Parce que je dirais, voilà. C'est peut-être ça le trésor du christianisme, c'est qu'il y a une grande liberté, il y a une de la personne,
voilà.
Du caractère unique de cette personne qui ne peut faire que quelque chose d'unique.
Exactement, on a confiance justement dans les dons que Dieu a mis en nous pour exprimer réellement librement la vérité qu'il nous offre à contempler. Et cette vérité, elle est pas, il n'y a pas de, comment dire, on ne peut pas la travestir, mais en revanche, il y a des possibilités de l'exprimer proche de l'infini, sans doute.
Alors, donc, dans cette rencontre de dimanche dernier, puisque c'est tout récent, il y avait Christine Surgens qui a parlé de la beauté, puisque c'est un sujet tabou, un sujet interdit depuis pas mal de décennies. Et Christine, on fait l'examen, le contenu de ce mot, elle en fait un examen très très précis, avec beaucoup de références, etc. Donc vous avez abordé ce sujet tabou du beau, qui est un sujet ouvert et qui n'a pas de limite, si on peut dire, mais au moins on peut en parler maintenant. Et la deuxième partie, c'était l'après-midi, vous avez donné la parole à un théologien qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom.
Le père Étienne Masquelier.
Voilà, qui lui a traité d'un autre sujet qui est un peu à l'origine d'associer l'art à la foi, à la contemplation, qui est que c'est une religion de l'incarnation. Et cette notion d'incarnation, elle est très essentielle, parce qu'à la fois, elle donne toute la liberté de l'art, et toute la singularité, et tout est contenu dans cette idée de... Enfin, dans ce fait, pas cette idée de l'incarnation.
Oui, alors effectivement, mon idée dans cette journée, c'est qu'on est une intervention d'un penseur de l'art, justement, Christine Surgens, qui a la foi, mais qui est une laïque, qui pense sur l'art.
Elle ne le fait pas de façon ni théologique, ni philosophique, ni sociologique, exactement. N'en parlons pas, mais c'est le regard d'une historienne.
Voilà, et sa réflexion, a priori, peut être faite sans la foi pourtant qu'elle assume. Vous voyez, ça, c'est un équilibre qui me semblait intéressant. Et donc, elle nous a exposé sa vision sur la beauté et une vision sur l'état actuel des choses. Et puis, l'après-midi, on avait la voix de l'Église, en quelque sorte officielle. L'Église qui nous apporte sa richesse concernant le sujet de l'art. Et donc, c'était une conférence, effectivement, théologique. Et ça me fait penser, d'ailleurs, puisque c'était l'incarnation, le sujet, que si on n'est pas, notre rôle n'est pas de donner des lettres de noblesse à tel style et non à tel autre. En revanche, il y a certaines choses que l'on peut rejeter, qui s'opposent fondamentalement à l'art tel que le christianisme le révèle. C'est effectivement l'art qui rejette le principe même d'incarnation. Et de fait, l'art conceptuel se range là-dedans.
Alors, cher Pierre-Henri Rousseau, voilà la deuxième année, une deuxième étape et en avant pour de nouvelles aventures. Comment les artistes peuvent-ils vous contacter? Comment rentrer en contact avec la communauté Frangelico, etc., etc. Dites-nous tout ça pour qu'on puisse correspondre avec vous.
Bien sûr, c'est vrai. Alors, c'est une association qui existe déjà, mais nous sommes en train de mettre en place les systèmes pour adhérer en ligne. Le principe, quand même, comme il s'agit d'un réseau humain et spirituel, c'est que pour y adhérer, il faut avoir participé à une journée. On s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une base concrète, qu'au moins les gens soient retrouvés au même endroit une fois. Et à partir de là, eh bien, ils peuvent adhérer à l'association. Le nom, c'est Communion Frangelico. et il n'existe pas encore de site parce que on veut le mettre en place, mais avec des, comment dire, avec des éléments qui sont pas si simples et qui vont nécessiter un peu de recherche de fond. Donc on prend notre temps, on se précipite pas parce qu'il y a aussi des questions de fond qu'on doit creuser. Toujours est-il que si la visibilité n'est pas encore facile, donc effectivement les gens peuvent me contacter moi personnellement via mon site, mais si la visibilité n'est pas encore
mais votre site qui porte un nom qui n'est pas évident quand même, parce que c'est pas votre oui. nom, c'est le site.
Oui, c'est l'étoile du matin avec un jeu de mots, l'étoile du matin. Voilà. Mais donc en fait, ceux qui ont participé à la journée, de toute façon, ils ont toutes les informations pour adhérer, et les autres, il faudrait qu'ils se renseignent pour les prochains événements et pour nous y rejoindre. Voilà. Et j'insiste d'ailleurs sur un point, c'est que c'est vraiment une association pour toutes les disciplines artistiques.
Oui, très important.
On veut vraiment mettre en réseau tous les arts. Jean-Paul II a proclamé Fra Angelico le patron universel des artistes, vraiment pour qu'il y ait d'abord un saint patron concret dont on connaît les œuvres d'art, parce que sinon il y a les saints patrons traditionnels, Saint-Luc pour les peintres, Sainte-Cécile pour les musiciens, etc. Mais on n'a pas d'éléments réels de leur art, alors que là, oui. Et je pense aussi, parce qu'en fait, c'est un enrichissement que de se pencher sur les autres disciplines artistiques qui ont toutes, en fait, en commun les mêmes principes de relation entre le monde qu'on ne voit pas, le sens spirituel, et le monde sensible, visible, audible, palpable, etc. Voilà, et ça, c'est un enrichissement très important.
Merci infiniment, Pierre-Henri Rousseau, et rendez-vous à l'année prochaine.
Voilà, merci beaucoup, Aude Desqueyros.
Au revoir. Christine Sourgens,
oui,
vous êtes
bonjour,
là.
Aude.
Oui, et vous allez nous raconter plein de choses qui est tout à fait intéressante à savoir.
Plein de choses. Ah là là, vous savez, 2026, c'est une année olympique, hein, n'est-ce pas? Et elle est marquée en matière culturelle par un championnat de flop en série. Alors déjà, il y a l'exposition Flop au Musée des Arts et Métiers, qui est consacrée aux échecs, ratages et autres fiascos. Alors l'exposition marche très bien, elle, et elle marchera jusqu'au 17 mai. Donc nos auditeurs peuvent encore aller la voir. C'est une exposition qui se demande pourquoi une invention ne marche pas, quelle forme peut revêtir l'échec, quelles leçons tirer. Et elle se concentre sur les secteurs techniques, les transports, la mécanique, voire la communication graphique, mais sans s'aventurer côté art plastique. Or, il y a des critères objectifs d'échec dans la technique ou l'économie, et on se dit souvent que dans l'art, il n'y en a pas, parce que vous savez, dès qu'il y a, il y a une bérésina culturelle, en général, les responsables s'abritent derrière la fameuse subjectivité du jugement de goût. Eh bien, si en art, il y a aussi des critères objectifs. Alors, on va essayer d'en trouver quelques-uns à partir du top des flops artistiques actuels. Alors, j'en vois trois. Moi, je vois trois candidats à départager. Et je laisserai les auditeurs décerner la médaille d'or. Alors, d'abord, sur le podium, il y a les vitraux de Claire Tabouret. Alors, objectivement, très très objectivement, il y a faillite démocratique, parce que c'est le fait du prince élyséen qui méprise l'avis négatif des experts institutionnels. Donc Jupiter devrait se faire nommer à tous les postes, comme ça, il n'y aurait aucun problème. Faillite de la restauration. Donc non-respect de la charte de Venise, qui est une charte internationale que la France a signée et qui interdit le remplacement arbitraire d'un élément survivant. Alors je ne vais pas parler donc des couleurs, du style de Claire Tabouret, parce que là effectivement on pourrait être dans la subjectivité du jugement de goût. Mais quand même, on peut commenter l'annonce par l'évêque de Paris de vitraux figuratifs. Quand on s'aperçoit que les cartons de Claire Tabouret qui sont exposés au Grand Palais montre que les deux derniers vitraux n'auront aucun personnage, contrairement aux quatre autres, mais de vastes paysages. Donc, il y aura un hiatus entre les deux derniers et les quatre qui montrent des figures et des personnages, et que ce contraste rend de fait hétérogène la commande, donc introduit une rupture au sein de l'harmonie vitrée de la cathédrale. C'est de la logique visuelle. Alors certains diront oui, mais ce sont des vitraux postmodernes et la postmodernité, c'est la rupture. Alors là, on peut répondre que le totem de la rupture relève de l'idéologie et pas de l'esthétique. De même, il y a des critères objectifs de fabrication d'un vitrail. C'est que, quand même, l'art du vitrail suppose d'avoir compris qu'une fenêtre est tenue par des montants ou des traverses. Donc, que le dessin d'un vitrail passe derrière ces éléments. Et à ce moment-là, l'artiste, évidemment, doit faire attention à ce qu'une barre horizontale ou verticale ne vienne pas cacher un visage ou un détail important dans sa composition. Mais Claire Tabouret, elle ne va pas se casser la tête à penser son travail en fonction d'une fenêtre, vous pensez bien, c'est une postmoderne. Donc elle a conçu ses cartons sans se soucier des meneaux et barletières. Et ensuite, elle a simplement découpé ses compositions et elle les a écartées pour les installer de chaque côté des remplages. Résultat, eh bien, les figures apparaissent démesurément élargies, désorganisées. Vous avez des têtes qui sont ouvertes en deux et étirées, et avec une mention spéciale pour une drôle de vierge qui a le bras long. Vous me direz, théologiquement, ça peut se défendre que la vierge ait le bras long. Des têtes scalpées, des corps élastiques. Et je vous laisse aller sur mon blog sourgins.fr, donc sourgins, c'est sourgins.fr, voir le grain de sel du 26 janvier. Et vous pouvez cliquer pour voir des visus, ces aberrations visuelles et corporelles. Moi, c'est ce que j'appelle les coups de tabouret. Vous voyez. Alors, M. Pinault, qui est le mécène, c'est qui possède beaucoup de marques de luxe made in France, eh bien, chapeau bas, parce qu'il vient de réussir un coup de tabouret fumant. C'est-à-dire que question savoir-faire français, ça rigole à l'international. Alors, c'est un flop à 4 millions d'euros, ça aussi c'est objectif, quoi qu'il paraît que ça monte. Donc un flop financier n'est pas à exclure en plus. Mais vous pouvez, je vous incite, à signer la pétition de la Tribune de l'Art, qui est sur change.org, qui est également soutenue par l'association Sites et Monuments. Alors, autre candidat au top des flops, le Louvre. Avec du nouveau sur le cambriolage, on croyait tout savoir. Hein. On connaissait la faillite de la gouvernance et la directrice actuelle et son prédécesseur qui se détestent tellement qu'ils ne se transmettent pas les infos et même pas un audit alarmant quant à la sécurité du musée. Bon, on connaissait la désorganisation structurelle, c'est le terme utilisé par le rapport d'inspection qui a suivi le vol. On connaissait aussi la débandade technique. Vous savez, ça, c'est vraiment le must. C'est une seule caméra et pas regarder en direct. Là, c'est vraiment champion. Hein. Eh bien, il y a une nouvelle révélation de TF1 avec les images de la vidéosurveillance apportant la preuve que le Louvre a menti. Il n'y avait aucun visiteur dans la salle au moment du casse. Les gardiens n'ont donc pas eu à les mettre en sécurité, ce qui était la version officielle. Donc, au fiasco financier de 88 millions d'euros, eh bien, il faut maintenant ajouter la faillite morale. Alors, le dernier flop magistral que je vous propose de faire monter sur le podium, c'est bien sûr la chute de Jack ou du système Lang. Là, on peut mettre un point d'interrogation. Donc, Jack Lang, ça y est, il est lâché par tous en raison de ses liens avec Epstein, un pédocriminel très cultivé, nous a appris Jack. Ça, quand même, on a appris des choses. Et derrière, il y a un montage offshore. Donc, offshore, a priori, éloigné du fisc. Vous savez que le offshore, en général, c'est idéal pour le blanchiment ou l'évasion fiscale. Bon, on verra. Donc, montage offshore d'achat d'art contemporain où Epstein investit la coquette somme de 20 millions de dollars en 2016. Alors les Lang, Jack et sa fille Caroline, apparemment, d'après certains mails d'Epstein, conseillent ou achètent les œuvres. Enfin, l'Américain n'apparaît pas vraiment, mais tout le monde partage les bénéfices. Le projet, également, semblerait avoir été discuté avec un financier et mécène de qui de quoi. Tiens, de l'Institut du monde arabe. Oh, c'est une coïncidence. Alors, on en saura plus, car le parquet national financier enquête sur un éventuel mélange des genres. Et je crois que le chef dans le motif d'enquête est blanchiment de fraude fiscale aggravée. Non. Alors, officiellement, ce fonds Epstein-Lang s'appelle Prytanée et, Aude, il est vertueux. Il soutient par ses achats de jeunes artistes prometteurs. Et là, on se dit, oh, les braves gens qui se soucient de la jeunesse, oh, comme c'est touchant. Et là, en fait, se dévoile la véritable raison de l'appétence de l'AC pour la jeunesse. Alors, il faut rappeler que l'AC, c'est l'art très très contemporain, qui n'est pas l'art de tous nos contemporains, mais d'une toute petite partie qui se prend pour le tout, qui s'inspire des détournements du Champien, pratique un art conceptualisant qui a vocation à devenir officiel et financier. Donc ce n'est pas tous les artistes vivants l'AC, hein, c'est quelque chose de très particulier. Donc l'appétence de cet art contemporain-là, de cet AC pour la jeunesse, vous savez, les fameux artistes émergents, les émergents, ça c'est majeur. Alors, il n'y a pas de philanthropie, là, il n'y a pas de romantiste, il y a juste du réalisme spéculatif. Parce que si Epstein met 20 millions sur la table, ou c'est le futur saint patron des artistes, hein, vous venez de rappeler que Frangelico était l'économe de son monastère, mais là, il n'a jamais réussi à 20 millions sur la table, je ne crois pas, Frangelico. Ou il y a autre chose qui s'appelle la spéculation. En effet, pour spéculer, il faut des jeunes, toujours et encore plus de jeunes artistes, car eux seuls ont une cote qui peut grimper de manière vertigineuse, car, par définition, ils partent de rien. Avec un artiste reconnu dont la cote est déjà forte, la perspective de profit est bien moindre. Donc les jeunots sont lancés comme des savonnettes, avant d'être largués quand ils ne sont plus assez juteux, c'est-à-dire quand les spéculateurs ont pris leurs bénéfices. S'en sortiront ceux qui seront nagés dans le marigot des flux financiers, des réseaux ou de la bureaucratie culturelle. Et ce qui est drôle, Aude, c'est ce que il y a quand même de doctes sociologues de l'art qui se sont aperçus que l'AC faisait trop pour les jeunes artistes et pas assez pour les artistes en milieu de carrière. Et ils s'en étonnent. Eh ben oui, les sociologues, ils ne croisent pas les champs de recherche, hein, comme a dit votre premier invité. Donc, ils s'occupent pas du contenu des œuvres, ni de leur environnement économique ou politique. Ils en ont conclu à une anomalie facilement amendable, une simple maladresse de gestion. Voilà. En fait, ils n'ont pas compris ce qu'ils étudient, parce que dans cet AC, n'importe quoi peut devenir de l'art, mais pas n'importe comment. Il faut un réseau qui construise de la valeur. Et évidemment, Jack Lang, c'est idéal. Il a un carnet d'adresses fabuleux, il connaît tout le monde. En France, quand il était ministre de Mitterrand, il a créé ce monde culturel en institutionnalisant cet AC. Donc vous avez encore aujourd'hui beaucoup de gens haut placés qui lui doivent tout. Évidemment, ils n'ont rien à refuser à ce brave Jack. Et je crois qu'on peut dire que ce flop est la énième trahison d'une intelligentsia qui, officiellement, peste contre la vassalisation de l'art par la finance internationale, alors qu'elle s'est alignée, et l'État avec elle, quand elle était au pouvoir, sur le marché financier de l'art new-yorkais, tout en mettant la main dans le pot de confiture. Donc la justice dira le degré d'implication des Lang, père et fille, dans cette nouvelle affaire. Enfin, on l'espère, car Jack a finalement un mode de vie très arty. Vous savez, ce terme a été forgé en 2008 sur art et sexy. Faut dire que sexy, avec Epstein, on comprend mieux pourquoi. Donc ce terme arty connote le mode de vie d'une élite internationale qui mélange fric, coolitude et transgression. Or, Jack a déjà été sous le coup d'une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux. Entre 2003 et 2018, il aurait reçu 47 costumes haute couture, de smalto en particulier, des cadeaux, plus des cadeaux sans contrepartie, donc s'il n'y a pas de contrepartie, tout va bien, pour plus de 500 000 euros. Vous vous rendez compte, Aude, c'est bien le mode de vie arty. Moi, j'aimerais bien qu'on m'en offre le quart même. Donc, une affaire classée sans suite en 2023. Et ce qui est amusant, c'est que, pour mémoire quand même, François Fillon fut lynché à la présidentielle de 2017 pour 13 000 euros de costumes seulement. Vous voyez, à Dallas, il ne faut pas jouer petit bras, et peut-être que Jack Lang était « too big to fail », comme disent les Américains, et peut-être l'est-il encore, on verra. Donc reste à souhaiter que la justice enquête effectivement sur le patrimoine de Jack, dans tous les sens du mot « patrimoine ». Je lisais, je ne sais pas si vous avez vu ça, Aude, les aventures déplorables d'un directeur du musée de Nankin, qui est un des plus grands musées de Chine, qui s'amusait à déclasser certaines œuvres anciennes en disant qu'elles étaient fausses, et bizarrement, on retrouvait les chefs-d'œuvre, soi-disant faux, vendus à prix d'or aux enchères. Mais ça n'arrive qu'en Chine, bien sûr. Et puis en Chine, ça rigole pas, parce qu'il y avait un autre conservateur qui s'est amusé à un autre système. Lui, il a été exécuté. Bon. Donc en France, tout ça, c'est impossible qu'un haut fonctionnaire culturel parte avec les boiseries ou les tentures. Ça n'arrive jamais. À chaque fois qu'on fait des recollements, d'ailleurs, du patrimoine public, il n'y a rien qui manque. Hein. Mais quand même, on aimerait bien que la justice nous rassure complètement. Donc, la bureaucratie culturelle et étatique française, qui perdure alors sous les ministres de droite comme de gauche, vous savez, les ministres passent mais la bureaucratie reste, aura contribué à la fabrication de codes artistiques d'un AC qui a évacué tout critère de valeur esthétique, puisque on voit bien que c'est un montage médiatico-financier. Voilà pourquoi il fallait déconstruire la beauté avec tant d'âpreté. Vous voyez, beaucoup de choses s'éclairent. Alors, j'entendais Joseph Massé-Scarron dire il y a deux jours qu'il faudrait écrire un éloge de la beauté. Eh bien, ça y est, il s'est écrit. Les deux premiers tomes sont disponibles chez Bollène et la suite arrive bientôt. Donc le premier, d'ailleurs, Anatomie de la beauté, a dû être réimprimé, mais tout est disponible. Donc le second tome, on avait décidé d'en parler au fil des émissions, Aude. Le second tome, c'est une géographie de la beauté, donc c'est une sorte d'inventaire des 10 principaux registres esthétiques qui permettent de créer du beau ou pas. Et on avait déjà vu dans les précédentes émissions l'harmonieux, le sublime, le joli, le kitsch. Et je vous propose, Aude, de parler rapidement de l'étrange et surtout de l'intéressant. Alors je vais partir de Magritte, que tout le monde connaît et qui utilise le registre de l'étrange. Vous prenez l'Empire des Lumières, vous savez, ce tableau où on voit une maison sur fond d'arbre, plongée dans la nuit. Un réverbère est allumé, alors qu'au-dessus de cette scène nocturne, le ciel est bleu et on a une impression de nuit en plein jour. Mais cette nuit est poétiquement habitable et étrange à la fois. Donc Magritte utilise l'étrange, qui est un registre qui généralement mobilise des affects qui vont de l'émerveillement jusqu'à la peur. Mais les tableaux de Magritte angoissent peu. Vous avez une facture qui est lisse, tranquille, les figures sont anonymes, l'homme de dos avec un chapeau melon, c'est le citadin lambda. Donc personnages et objets tendent à être génériques, d'où une absence d'affect, ce qui est assez rare dans ce registre de l'étrange. Parce que, en fait, il y a un autre registre qui se tisse à celui-ci et qui parfois prend le pas dans l'œuvre de Magritte, c'est l'intéressant. C'est-à-dire que certains tableaux sont très cérébraux. Ils sont une interrogation sur le langage et l'image. Alors, tout le monde connaît la fameuse pipe, et puis avec marqué en dessous, ceci n'est pas une pipe. Donc une représentation évidemment d'un objet n'est pas l'objet réel. Vous avez d'autres œuvres de Magritte qui sont proches de devinettes visuelles, de rébus, voire d'un problème philosophique. Et là je pense au tableau qui s'intitule « Les vacances de Hegel ». Alors c'est un tableau très simple où on voit un verre d'eau en équilibre au-dessus d'un parapluie ouvert. Alors, qu'est-ce que fait Magritte ? Eh bien, il associe des partenaires dialectiques. Vous savez, la dialectique est chère à Hegel, c'est-à-dire que le verre accepte l'eau que le parapluie repousse. Or, Hegel avait annoncé la mort de l'art. Et vous constatez que Magritte, dans son titre, le met en congé. Donc, c'est une sorte de réponse du peintre au philosophe, comme du berger à la bergère. Et Magritte est un peintre extrêmement rusé. Donc la frontière entre l'étrange et l'intéressant serpente à l'intérieur de l'œuvre de Magritte, qui peut mêler les deux. Et la plupart d'ailleurs des registres de la géographie de la beauté, que j'ai sous-titré « géopoétique », se mélangent, les continents esthétiques s'entrechoquent, tout ça bouge et vivant. Donc d'une manière générale, si une fois qu'un tableau a délivré son message, votre œil s'en détourne, au fond, ce n'était qu'intéressant, ou surtout intéressant. Vous savez, c'est le moment où les gens vous disent « Oh, c'est plus curieux que beau », ce qui veut tout dire. L'intéressant a eu une grande vogue avec le maniérisme au XVIe siècle, parce que c'est une époque où on multiplie les œuvres à clé avec des références mythologiques parfois assez savantes, beaucoup de symboles, des emblèmes. Et il y a un artiste qui est très connu, bien sûr, c'est Artimboldo, qui est le spécialiste des portraits composites avec des coquillages, avec des fleurs, etc. Et Artimboldo, c'est un Italien qui est au service des empereurs Habsbourg, qui doivent faire l'unité de peuples hétéroclites. Parce qu'au fond, un empire, c'est toujours une mosaïque de peuples à unifier. Or, leur peintre réussit picturalement ce programme politique en unifiant des objets disparates. Alors, évidemment, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est beau ? Et là, il y a Martial Brion qui a bien analysé l'œuvre d'Artimboldo et qui note que c'est dans ses portraits, il y a comme une mélancolie de la matière inerte qui est impuissante à être un vivant comme vous et moi. Et donc, cette tête composite crée une personne picturale, poétique, doué d'état d'âme, donc ce n'est pas purement politique ou décoratif. Donc vous voyez qu'une œuvre peut être intéressante et belle. Alors, si l'intéressant peut transformer toute œuvre d'art en un document historique ou un reportage sur la société, s'en tenir là, réduire l'art à cela et que cela expose aux reproches d'abandonner un tableau rare pour des idées, comme disait Michael Edwards. Aujourd'hui, le drame, c'est d'opposer beau et intéressant, vous savez, comme ces archéologues qui refusent d'explorer des sites prestigieux qui seraient pourtant promesses de beaux objets. Ils préfèrent fouiller les poubelles ou les latrines parce que c'est plus instructif sur la vie sociale. C'est d'ailleurs l'historien Paul Venn qui rapporte cette anecdote significative. Et le problème de l'intéressant, c'est qu'il dispose d'un empire, car tout, absolument tout, est toujours, d'un certain point de vue, digne d'intérêt. C'est-à-dire, par exemple, vous fouillez un site historique et vous ne trouvez rien. Mais en fait, c'est très intéressant, ça prouve que les traditions locales étaient fausses. Donc tout est toujours intéressant, même un flop. Évidemment, l'art très très contemporain va jouer en maître de l'intéressant. Si vous n'aimez pas l'assez, c'est de votre faute. C'est que vous n'avez pas fait l'effort de vous intéresser, car l'intéressement est une conduite à succès puisqu'il y a toujours un peu d'intéressant quelque part. Par exemple, je vais donner une œuvre très intéressante d'art contemporain, c'est celle de John Baldassari, qui a recopié des dizaines de fois en 1971 cette phrase « Je ne ferai plus jamais de l'art ennuyeux, je ne ferai plus jamais de l'art ennuyeux, je ne ferai... » Enfin bon, il y en a des dizaines et des dizaines. Évidemment, ça n'a rien de beau. On peut trouver que c'est paradoxalement très ennuyeux de jurer ne plus jamais faire d'art ennuyeux, mais justement, Lassé va trouver ce paradoxe très intéressant. Donc devant les œuvres d'Assé, on ne se demande plus si c'est beau, parce que là, le beau a été complètement ringardisé. Non, c'est pas le problème, on va chercher le concept, le fonctionnement, la démarche de l'artiste, les contextes d'usage. C'est-à-dire que Lassé a détaché l'art de la beauté tout en le reprogrammant soudé à l'intéressant, est sa catégorie reine, parce que ça permet de sensibiliser à, de critiquer ceci, de faire avancer telle cause, la transgression qui donne à penser, c'est le nec plus ultra de l'intéressant. Donc vous voyez que la définition du beau a changé pour devenir « est beau ce qui est digne d'attention, point ». Alors, le beau est digne d'attention, mais tout ce qui est digne d'attention n'est pas forcément beau. Votre feuille d'impôt, elle est quand même digne d'intention. Mais elle n'est pas belle, donc il ne faut pas confondre attention et critères de beauté. Alors, je démontre dans mon premier livre, Anatomie de la beauté, que parmi les constantes de beauté, qui ne sont pas des règles, hein, qui sont des choses plus souples, parce que moi, mon but, c'est de redonner consistance à la notion de beauté, mais surtout pas, je ne voudrais pas la fossiliser. Donc, parmi les constantes de beauté, il y a celle de la profondeur de sens. Donc le beau artistique, au sens plein et fort du terme, a toujours du sens et par conséquent, il est intéressant, car il est différent de la simple déco. Mais Lassé soutient au contraire que le beau, c'est forcément de la déco, donc pas intéressant, tandis que lui, Lassé, qui est conceptuel ou conceptualisant, qui est un art citoyen, etc., etc., est le seul art qui pense. Bien voyons. Donc se convertir à Lassé, c'est souvent passer du beau à l'intéressant. Voilà autre ce qu'on pouvait résumer très succinctement, qui est développé évidemment beaucoup plus dans le second livre qui s'intitule donc Géographie de la beauté. On peut rappeler à nos auditeurs qui sont disponibles ces livres dans toutes les librairies, ou pour les Parisiens qui auraient besoin de les avoir tout de suite, eh bien ils sont en permanence à la librairie Bolène, qui est la librairie de l'éditeur, 41 rue de Bourgogne, à Paris dans le 7e, c'est au métro Varennes. Et puis, ces petites chroniques, les chroniques du grain de sel, un mardi sur deux, vous pouvez sauf pendant les vacances quand même, vous pouvez les retrouver gratuitement sur le blog sourgeins.fr.
Merci beaucoup, Christine. Vous nous faites le point sur, sur ce que nous vivons tous les jours. Et donc, vous pouvez même avoir, chers auditeurs, des archives très complète sur cette actualité qui tombe tous les 15 jours chez Christine Sourgeins dans le grain de sel et qui nous redessine ou nous informe tout simplement parce que très souvent toutes ces informations on ne les a pas
arrivent en vrac
et surtout on ne les a pas tous les jours dans la grande presse et il faut aller la chercher toute l'information que vous donnez sur la vie artistique en France Vous savez, tous les grandes télévisions, les masses médias, les très grands journaux, la page culturelle, elle est assez pauvre. Il n'y a plus les colonnes de critiques d'art dans la presse. Il n'y a pas, et même dans des télévisions comme celle de
CNews,
vous n'avez pas vraiment quelque chose de culturel d'important. Donc toute une actualité passe sous les radars, et donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où on la retrouve. Votre grain de sel est l'un des très rares d'entre eux, et donc ne manquez pas tous les 15 jours les grains de sel de Christine.
Vous pouvez soit aller visiter le site, surfer comme on dit, ou vous inscrire sur le blog, vous abonner, c'est gratuit.
Merci Christine Sourgens, et merci aussi David Mascré de votre intervention, et notre ami Pierre-Henri Rousseau de vos interventions d'aujourd'hui. Merci chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal d'hôte de Kairos, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 12 février 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.